tout de suite, c'est le énervé, le dernier de la semaine. Il commence en régie avec Marion Guilbault qui surveille les balances comme le lait sur le feu. Les balances de Léonie Pernet ce soir, Marion.
Oui, Laurent, et je suis juste à côté d'elle. Elle est avec un très joli t-shirt rose pâle. Et on est en train d'écouter, de vérifier que tout s'est bien passé tout à l'heure.
Ah, chanson. Ah, le niveau de rail, il est un peu fort. Je veux bien que tu, ou que tu baisses de 2 dB ou que tu mettes plus de reverb.
C'est quoi le niveau de ride, de dry? C'est quoi ça, Léonie?
Dry, ça s'oppose à wet, c'est-à-dire sec. Et disons que on a le niveau de la voix sans effet, nu, et puis le niveau de l'effet.
D'accord. Donc ça y est, c'est résolu. On peut y aller maintenant.
Je suis un peu tatillonne sur le son.
Non, juste un peu.
Allez, on y va. À tout de suite.
C'est Marguerite Duras qu'on entend derrière nous.
Oui, c'est ça. Bah c'est la reprise.
C'est une diasong, j'adore. Allez, générique.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le magazine de la double bonne soirée, puisque cette année, ça commence sur le net à 18h, en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis ça recommence, mais à l'antenne, comme tout le monde, 22h minuit. Ce soir, une émission tout pour la musique, avec René Jacobs, qui mène à la baguette Il Primo Omicidio d'Alessandro Scarlatti, une première à l'Opéra National de Paris, le meurtre d'Abel par Caïn pour repenser les valeurs du bien et du mal, soutenu par la douceur de cette composition. Un paradoxe musical qu'on découvre avec vous, René Jacobs. Bonsoir.
Bonsoir.
Musique encore, mais électropop, ce sera le live de Léonie Pernet qui s'est installée derrière le micro. Jeudi, c'est aussi le jour des nouveautés nouvelles. Marion Guilbault, quelques pistes pour le meilleur des sorties à venir.
Avec un nouveau titre de l'américaine Karen O en duo avec Danger Mouse, le retour du crooner suédois JJ Johansson et un duel au sommet ou un duo au soleil, surprise à suivre.
Dans le Énervé la suite ce soir, donc pour la deuxième partie, oui. Israël, qu'est devenu le rêve sioniste, Christophe Boursier?
Bah écoutez, je me demande, j'allais vous poser la question, alors au fait, qu'est devenu le rêve sioniste? Et donc, on va répondre bien sûr avec des gens qui sont vraiment au fait de la question, notamment Serge Moati, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Il était une fois en Israël », où il se pose justement cette question. Il y aura également Michel Siboni, qui est une militante de l'Union française juive pour la paix. Il y aura Judith Weintraub, journaliste au Figaro, et Michael Prazan, écrivain et réalisateur.
Eh ben, on retrouvera tout ce beau monde tout à l'heure.
Ben, j'espère.
Vous restez avec nous.
Pourvu qu'ils viennent.
Le Énervé, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Et tout de suite, on commence en live avec notre invitée du jeudi, Léonie Pernet, Marion Guilbault.
Elle est comme les chats, hein, Léonie Pernet. Elle a déjà eu plusieurs vies, batteuse avec le producteur électro Yuxek, DJ au Pulp avec des mix étonnants, culottée politique et aujourd'hui cette nouvelle incarnation en chanteuse. Léonie Pernet, c'est une perfectionniste. Elle a travaillé pendant longtemps, presque 4 ans, sur son premier album Crave, un disque chanté en français, en anglais, en arabe. Un projet qu'elle a porté seule, 4 ans de recherche, d'aller-retour, une plongée dans le monde des machines et des logiciels qui lui a permis d'apprivoiser son spleen, ses angoisses et d'équilibrer sa musique intense, portée par les percussions et la voix. Alors certains disent, Laurent, que le chemin est plus important que la destination. Eh bien, on va demander dans quelques minutes à Léonie Pernet ce qu'elle en pense. Mais là, c'est le moment de l'écouter en live sur un premier titre en version acoustique. Butterfly, Léonie Pernet, c'est à vous.
3 et 4 et...
Further and better, and better.
live.
Qui était cachée derrière les paravents, c'est très pratique pour écouter de la musique.
Bah oui, c'est pratique, mais il y a quand même des images d'elle qui sont sur les internets tout à l'heure, comme on dit. C'est extrait de son premier album, Crave, qui est sorti cet automne sur le label Infine. Rejoignez-nous.
Léonie Pernet.
Léonie, elle était accompagnée par Anna, Marie et Cécile qui assuraient les chœurs ce soir avec elle.
Vous en avez mis du temps quand même entre le premier EP en 2014 et 2018, le premier album. Ça marche, le micro marche. Ouais. Mais il faut juste tourner voilà, le potard. Vous écoutez, ça y est, vous entendez là ?
Oui.
C'est super d'entendre votre voix.
Oui, ça me change un peu.
C'est rassurant, ça vous change un peu, oui. Oui, vous avez mis du temps entre le premier EP et le premier album.
Ah oui, j'ai mis du temps, on me le dit beaucoup.
Oui, pourquoi ? Vous mettez tant de temps ?
Pourquoi je mets tant de temps ? Parce que c'est ainsi, parce que ça a été long, parce que j'ai travaillé seule, parce que j'ai travaillé sérieusement, parce que c'est pas...
Vous enregistrez tous les instruments ?
Ouais.
Tous,
c'est vous ? Oui, tous, ouais. Sauf...
Vraiment tous.
Oui, sauf une percussion. Mais ouais, j'ai enregistré les batteries, je les ai éditées, je les ai montées, je les ai jouées.
Pourquoi faire ça toute seule, tout le temps ? Vous n'avez pas confiance en d'autres musiciens ?
Parce que déjà, j'ai la chance d'avoir une formation en percussion et de clavier, donc ça ne m'a pas empêché de faire deux pains tout à l'heure. Mais je sais ce que je veux entendre, grosso modo. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai pu maîtriser le processus total, donc ça fait que je suis proche de ce que j'ai fait.
Là, on parle quand même d'un album très 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 produit.
Ah avec, ouais, très produit, ouais.
Et on vient d'en entendre une version
acoustique,
très dépouillée, très acoustique.
À l'heure, on passera des extraits justement pour se rendre compte de ce qu'est l'album véritablement.
Qu'est-ce qui a motivé juste cette version-là ? Pourquoi l'avoir jouée comme ça, de cette façon acoustique, avec les chœurs ?
Parce que les bonnes chansons, on doit pouvoir les jouer avec que ce soit au ukulélé, à la guitare, au piano, ça tient. Et vu que c'est une chanson qui a une production assez pop et que je la trouvais jolie, je trouvais ça agréable de se mettre vraiment dans l'esprit de la chanson dépouillée. Et puis
et ça marche, hein. Ça marche plutôt bien même.
Ouais, j'aime bien. Et puis j'aime bien être entourée aussi de
personnes. Ah bah quand même,
personnes.
Pas toujours toute seule.
Ah non, j'adore. Depuis que l'album est sorti, j'ai soif d'humanité.
On parlait de la façon justement de tout contrôler pour le premier album. Vous vous souvenez, vous, de votre premier enregistrement, René Jacobs ? Ça remonte à longtemps, hein ?
Ça remonte à longtemps.
Vous aviez veillé aussi à tout ?
Mais je pense que j'avais 23 ans.
Ouais.
Maintenant, j'ai un peu plus que ça,
oui.
Mais c'était un enregistrement.
C'était quoi, comme enregistrement ?
Je pense que le tout premier, c'était un enregistrement d'un opéra de Lully, Le Bourgeois Gentilhomme, avec Gustave Léonard qui dirigeait.
Qui dirigeait, ouais. Vous chantiez.
Moi, j'ai chanté. C'était aussi le début d'un nouvel orchestre, la petite bande. Et moi, à cette époque, j'étais professeur dans un collège. J'enseignais depuis 3 ans le grec et le latin.
Ouais.
Mais évidemment, dans cette période déjà. Je chantais beaucoup. J'avais chanté déjà en tant qu'enfant dans une maîtrise. Et j'ai commencé à faire des concerts, etc., etc. Et Gustave Léonard m'a invité de chanter dans cet enregistrement. Et j'ai pris une décision qui n'était pas difficile pour moi, mais après je me réalisais. Qu'est-ce que tu as fait maintenant ?
Et c'est alors, c'était quoi cette décision ?
Parce que c'était le début de la 4e année scolaire. Et dans les premières semaines, je suis allé au directeur pour dire, voilà, j'ai cette possibilité de faire un enregistrement, ça va me coûter 10 jours. Et il a dit, mais non, c'est pas possible.
Ah bah, ça, je connais l'administration scolaire.
C'est le début de l'année scolaire. Et dans les 3 années avant, déjà, il m'avait donné du temps, parfois. Mm-hmm. Quelques semaines, parfois, mais il a dit, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, j'ai dit, monsieur, demain, je ne viens plus.
Vous avez donné votre démission de prof de grec et latin. Vous êtes devenu le contre-ténor qui a fait...
Dans l'eau froide.
Vous avez commencé à chanter à quel âge, vous, Léonie Pernet ?
J'ai pas commencé par chanter, j'ai commencé par vraiment les instruments. Et le chant, c'est venu très tardivement. Donc la réponse, c'est à 8 ans, par la batterie.
Ah ouais, la batterie. Ouais,
tout à fait.
Pas le piano, moi je croyais que c'était le piano votre premier instrument.
Ah non, c'est la batterie.
D'accord. Ouais,
c'est bizarre, on a reçu Anne Passeo il y a pas longtemps.
Ah oui, bah, excellente
batteuse. Ah, oui, excellent. Qui a aussi commencé par la batterie. Vous, pour quelle raison vous aviez choisi la batterie?
Parce que à la base, je voulais faire de la guitare électrique quand j'avais 4 ans, 5 ans. Parce que j'avais acheté ma première cassette, c'était Metallica ou AC/DC, je sais plus.
Ouais.
Je voulais faire du bruit, je voulais faire un instrument qui était associé à un truc de garçon. Et donc j'ai commencé la batterie, et puis et ensuite le piano, et puis ensuite percussion classique.
Des parents ravis de ce choix? Pour le bruit, je pense, surtout.
Des parents aimants.
Donc,
compréhensifs, donc.
Ouais. On va revenir sur vos parcours dans quelques instants. Tout de suite, pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé à chacun et chacune des sons qui vous ont marqué. Et c'est vrai que ça ressemble à une playlist. Le premier, Purcell, René Jacobs. L'album, je l'ai encore, je me souviens de la pochette sur le CD. Qu'est-ce que ça représente pour vous, donc Alfred Deller qui chante Purcell pour vous, René Jacobs, ben contre-ténor?
C'est par Alfred Deller que j'ai découvert cette voix. Parce que lui, c'était le premier, c'était vraiment un pionnier.
Dans les années 60, hein, lui.
Oui, les années 60, bien avant un peu encore.
D'accord.
Qui a recommencé depuis deux siècles. De chanter avec cette voix aiguë d'homme, donc grâce à un registre qui s'appelle le fossé, le falsetto.
Ouais.
Et c'était très intéressant pour moi parce que moi, j'avais commencé à prendre des leçons de chant en tant que ténor. J'avais chanté comme enfant, soprano. Et puis,
ténor, c'est la
on
voix
se dit,
classique, ouais.
Je suis un homme, je dois chanter avec une voix d'homme,
ténor.
La voix la plus aiguë, ténor. Et, mais donc, je découvrais qu'il y a une voix encore plus aiguë, qui est en fait ce qui est quelque chose qui est un relique de la voix de garçon, ce qui est resté de cette voix de garçon. Et voilà, j'ai commencé à imiter d'elle, en fait, et puis prendre des leçons avec lui. Et c'est à cause de ça que j'ai aussi, tout au début, je chantais surtout son répertoire, qui était une musique baroque anglaise
ouais.
Ou renaissance anglaise.
Très bien. De votre côté, quelque chose de familial pour vous, Léonie Pernet?
He's here right now. Here right now. There's no need to wait. There's no need to play.
C'est un son qui vous est très personnel parce que vous nous l'avez fait parvenir, Léonie Pernet. Qui entend-on?
Ma mère.
À quelle occasion?
Alors, c'est une chanson qu'elle me chantait quand j'étais enfant. Et quand elle est venue chez moi il y a quelques années, elle avait dormi chez moi. Et j'ai repensé à cette chanson et j'ai eu envie de l'enregistrer pour la capturer, la voir avec moi. C'est très doux, c'est très beau, c'est un chant chrétien manifestement, j'aime beaucoup.
Vous la réécoutez souvent cette voix?
Non, je ne l'ai pas réécoutée souvent, mais j'ai déjà essayé de l'intégrer dans des mix, des choses.
Ouais.
Et puis à chaque fois, c'était pas très justifié. Ça mériterait un mix entièrement dédié à ma mère. Et donc là, vous m'aviez demandé des sons qui m'évoquaient des choses personnelles qui n'étaient pas de la musique. Donc voilà, ça me permet de faire une petite dédicace à ma mère. Et puis...
On chantait chez vous, René Jacobs?
Je suis le seul des 4 enfants. qui chantait, oui. Et mes parents n'étaient pas vraiment musiciens. Ma maman avait eu un papa qui était violoniste, mais que j'ai jamais connu. Donc, la musique peut-être vient de la famille, mais je ne sais pas vraiment comment.
Et de votre côté, Léonie Pernet, la musique était familiale ?
Non, pas tellement.
Non, non plus. Enfin. On vous retrouve tout de suite.
Perché mormora il ruscello ?
Le nouveau rendez-vous ? Laurent Goumard ? Sur France Inter.
Perché mormora il ruscello ? Perché sa
Plateau homicide avec vous, René Jacobs, contre-ténor, chef d'orchestre, chercheur, pédagogue, figure emblématique de la musique européenne pour un répertoire qui va du XVIe siècle au XVIIIe, à votre répertoire Monteverdi, Cavalli, Purcell, Handel, Mozart, aujourd'hui Scarlatti, vous y revenez. C'est un oratorio méconnu du tout début du XVIIIe siècle, Il primo omicidio, que vous aviez, vous, enregistré déjà en 97. Pourquoi c'était resté méconnu? Pourquoi vous avez exhumé cette œuvre?
Il y a tellement de musique, évidemment, qui a été écrite
ben voilà.
Et qui a été très populaire, même à l'époque, et qui a disparu et qui a été redécouverte. Le plus spectaculaire, peut-être, c'est la passion, selon saint Matthieu, de Bach, que maintenant tout le monde connaît.
Mais qui, pendant, en effet, des siècles,
pendant
a été complètement
presque un siècle,
occulté.
C'était tombé dans l'oubli. Et puis, il y a eu le compositeur Mendelssohn, qui a vu cette musique, qui a commencé à la jouer au piano et qui a dit mais c'est un chef-d'œuvre et qui a exécuté l'œuvre pour la première fois depuis la mort de l'œuvre. Donc c'est une sorte de renaissance de l'œuvre. Et comme ça, Monteverdi, c'est la même chose. Les opéras de Monteverdi étaient totalement tombés dans l'oubli, ceux de Handel aussi. Et pour Scarlatti, il reste encore beaucoup de travail à faire. C'était...
Il était très prolifique comme compositeur.
Oui, il a écrit, on connaît de lui les titres de plus que 80 opéras, plus que 600 cantates, c'est des pièces donc pour voix seule et basse continue le plus souvent, et plein d'autres musiques d'église. C'était énorme. Il a dû écrire, composer de la musique chaque jour pour y arriver. Et donc, le Primo Omicidio est un de ces oratorios.
Oui, c'est pas un opéra, justement. On va revenir sur la spécificité oui, parce que ça donne oui. un style précis à la musique. Alors, cet oratorio, vous l'aviez enregistré. Vous étiez à la baguette comme chef d'orchestre, mais aussi comme chanteur, comme contre-ténor. On vous écoute parce que vous vous étiez donné le rôle de Dieu. Vous ne vous êtes pas trompé de rôle en vous donnant celui de Dieu. C'est vous qu'on entend ici, René Jacob. Vous étiez donc à la fois dans la fosse en train de diriger l'orchestre et en train de chanter pour cet enregistrement. Mais vous auriez pu, parce que c'est tout ça l'intérêt de la pièce, vous auriez pu aussi vous donner celui de Caïn, puisque Caïn et Dieu ont la même tessiture. Ça veut dire que Caïn pouvait chanter Dieu et que Dieu pouvait chanter Caïn. Ça refait penser quand même les notions de bien et de mal.
C'est vrai, mais dans cet oratorio aussi, le personnage d'Abel est chanté par une soprano.
Oui.
Évidemment, à l'époque, c'était pas des femmes, c'était des castrats. Ça, il faut tenir compte de ça. Maintenant, Dieu soit loué, il n'y a plus de castrats. Donc, on donne ce rôle à des contre-ténors, mais aussi à des femmes. Pourquoi pas des femmes ? Et je trouvais le fait que Caïn, il y a Caïn et Dieu dans la même tessiture.
Exactement.
On dit. Donc, ça veut dire les mêmes notes sur le piano. Et je trouvais symbolique de donner le rôle de Caïn à une voix grave dans cette tessiture, parce que pour une femme, c'est grave.
Ouais.
Et le rôle de Dieu a une voix aiguë dans cette même tessiture, parce que là, donc c'est l'illusion d'une voix grave et l'illusion d'une voix aiguë. Donc je voulais le contraste entre ces deux voix.
À quel moment vous avez arrêté de chanter, René Jacob?
C'était mon dernier rôle d'opéra que j'ai enregistré. Après, j'ai encore enregistré d'autres genres. Mais maintenant je suis déjà full time chef d'orchestre sans chanter depuis presque 20 ans.
Vous avez chanté d'autres choses, d'autres répertoires, du jazz par exemple?
Non.
De la pop?
Non.
De la chanson française, même pour vous?
Chanson française baroque, oui.
Ah, chanson française baroque, bien entendu.
Un répertoire très riche.
Léonie Pernet, vous allez à l'opéra de temps en temps?
Oui, tout à fait.
Ouais. Il y a même une voix, on va dire, un peu lyrique dans un des morceaux qu'on écoutera tout à l'heure, dans Crave d'ailleurs, qui donne le titre à l'album.
Vous êtes donc à l'opéra, ouais. Oui, c'est moi qui la chante, la voix d'ailleurs.
Ah oui,
tout à fait.
On écoutera tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal.
C'est amateur. Hein,
mais... Parce que vous avez aussi une petite formation lyrique?
Non.
Non.
Mais par contre, vous avez une formation classique.
Oui, j'ai une formation classique.
La technique de chant, c'est que le chanteur lyrique n'utilise pas de micro.
Ouais.
Donc, il chante dans une grande salle et il doit apprendre à acquérir un grand volume sans avoir recours à ce micro.
Ouais.
Maintenant, je ne suis pas contre les micros. Et parfois, ça peut être même nécessaire quand un opéra est donné dans une salle vraiment très vaste.
Ben oui, ou même en plein air, j'imagine.
D'utiliser le micro. Mais en règle, il n'y a pas de micro.
La mise en scène est signée Romeo Castellucci. Je crois que ça peut vous dire quelque chose. Une mise en scène superbe, tout en rhétorique de gestes extrêmement ralenti, qui font écho à des gestes vus dans les tableaux, avec des audaces de mise en scène, on va en parler. Vous êtes bien entendu tous les deux, parce que c'est pas toujours évident le rapport entre le metteur en scène et le chef d'orchestre.
Non, Dieu soit loué, je me suis très très bien entendu avec lui, et j'ai dit Dieu soit loué, parce que la production avant, que j'ai fait juste avant à Vienne,
c'était catastrophique.
Un opéra de Handel, Teseo, c'était avec un metteur en scène, je ne vais pas dire son nom.
On le trouvera sur Internet, vous cherchez. À Vienne,
oui,
René Jacobs, Handel.
Il s'est comporté comme un vrai autocrate, en fait, un psychopathe. Et donc, maintenant, j'avais un metteur en scène qui est l'humilité même, qui est très humble envers l'œuvre. Et je crois que c'est quand on recrée une œuvre, c'est parce que nous, on ne crée pas, on doit recréer. Il faut avoir du respect pour l'œuvre même, en restant humble. Et c'est le cas de Romeo Castellucci. On était sur la même longueur d'onde, on dit, dès le premier jour de répétition.
Alors, il y a une particularité dans la mise en scène de Romeo Castellucci, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le passage à l'acte, c'est-à-dire quand il va y avoir le meurtre d'Abel et par Caïn. Et il y a une particularité, c'est que sur la scène, tout va être joué et chanté par des enfants. Chanté par des enfants, alors que les chanteurs, bien sûr, sont eux dans la fosse. C'est-à-dire que les enfants vont mimer le chant des chanteurs dans la fosse. Avoir les chanteurs dans la fosse, c'est une difficulté?
Non, ça peut être une difficulté pour l'acoustique, mais ici, dans le cas de l'Opéra Garnier, on
n'a
pas eu vraiment de problème. Et c'est très beau l'idée qui est derrière.
Voilà, justement, j'allais savoir comment il a justifié ce tel geste de dédoublement, en fait.
Oui, donc il attend le moment crucial du drame. Un garçon, en fait, Caïn est le premier homme né Né, c'est le premier bébé. Ici, il est un jeune garçon, il tue son frère par jalousie, parce qu'il pense qu'il a plus de droits, étant l'aîné, etc. On connaît l'histoire. Et à ce moment-là, où les chanteurs sont encore les mêmes que les acteurs sur scène, on voit déjà des enfants qui
apparaissent,
qui
commencent à imiter
ce geste de frapper quelqu'un à mort. Et en fait, il a voulu exprimer que dans cette histoire, qui est une histoire inventée, comme toutes les histoires de la Bible ou de la mythologie, c'est une histoire inventée, mais pour expliquer quelque chose qui nous tient très à cœur, l'origine du mal. D'où vient le mal? Pourquoi l'homme peut être si mauvais? Parce que même l'animal ne peut pas ça. Tuer son frère. Et il a voulu exprimer que ce geste-là va se répéter encore des millions de fois. Et sur le texte du drame est très peu dramatique, en fait. C'est surtout une méditation sur de chaque personnage. Donc il y a Adam, Ève, Caïn, Abel, Dieu et le diable.
Lucifer, ouais.
Il y a ces six personnages. Il nous donne des leçons en morale ou même en théologie. Et Romeo Castellucci est quelqu'un qui connaît très bien cette théologie. Moi aussi, j'aime bien ce sujet. Même si on ne croit pas en Dieu, je trouve qu'il faut connaître toutes ces choses-là pour comprendre notre culture.
Pour comprendre notre culture, peut-être la dernière question, comment vous avez regardé l'installation de Claude Lévesque à l'Opéra Garnier? Quand on entre, quand on prend les escaliers, il y a deux énormes roues de tracteurs dorés. Comment vous avez regardé ça, vous, René
Jacobs? J'ai été confus parce que je me suis demandé, est-ce que c'est un miroir? Est-ce que l'espace entre vide, entre les pneus, est un miroir? J'ai vite vu que c'est pas un miroir. Mais le fait que j'ai eu cette idée...
Ouais.
Il n'explique pas ce que... Je ne sais pas ce qu'il a voulu exprimer, mais je sais que j'ai eu cette idée, et c'est surtout ça que je vais pas oublier.
Quand vous allez à l'opéra, Léonie Pernet est partie pour rejoindre justement ses musiciennes, puisque le live, c'est dans quelques instants. Je rappelle que Il Primo Mitche Dio, c'est à l'Opéra Garnier, donc à Paris jusqu'au 23 février. Et on peut se rapporter aussi à cet enregistrement de 1997, où vous êtes Dieu, René Jacobs, à la fois...
Je ne suis pas Dieu du tout.
Vous êtes Dieu, en tout cas dans cette production.
Je sens les paroles de Dieu.
Mundi.
Rendez-vous.
Autre répertoire après le baroque.
Un autre baroque, un baroque de l'électro, un baroque de la pop avec Léonie Pernet qui a rejoint quoi? La batterie, non, son clavier, parce qu'elle va bouger d'instrument, vous allez voir sur les deux titres qui vont suivre. Léonie Pernet qui revient pour deux titres, India Song, une reprise de Marguerite Duras et un autre extrait de son dernier album, Crave. C'est à vous, Léonie.
Nous dansions en sang.
Léonie Pernet pour deux titres extraits de son album Crave, sorti cet automne sur le label Infine. Elle était accompagnée par Anna au clavier et aux percussions. La prise de son était assurée par Loïc Frapsos, Mathias Allion et Gilles Gaillard. Et les vidéos sont à retrouver sur notre site et sont assurées par Dominique Philippot. C'était super beau le tambour qu'utilisait Anna tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ?
Donc Anna Wassim, que je salue. C'est un daf, c'est une percussion iranienne.
Une percussion iranienne. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ça fait vraiment un son très particulier, c'était beau.
Elle va nous le montrer, c'est de la, moi je dis de la ferraille, c'est
des petites boucles. Hein. C'est de la ferraille, tout simplement.
Des petites boucles de métal.
Et ça, vous savez en jouer ? Vous qui jouez de tout ?
Eh bien non, je ne sais pas en jouer.
Ah ben voilà, on a trouvé l'instrument.
C'est pour ça qu'Anna est là.
René Jacobs, vous écoutez autre chose que le répertoire que vous travaillez, ou autre chose que la musique classique, romantique, même Verdi, je sais que vous aimez aussi Verdi. Vous aventurez vers d'autres styles pour vous-même ?
Oui. J'écoute peu de musique parce que j'en fais tellement.
Ben oui, c'est tout comme ça.
Donc j'ai peu le temps d'aller voir un spectacle, même d'opéra. Je lis beaucoup de musique aussi. Pour moi, je peux lire une partition comme ça et l'entendre.
Ah ouais. Ça, vous savez le faire aussi, Léonie Pernet ?
Non, plus maintenant, sur une clé de sol normale, oui. Mais je vais pouvoir lire une partition d'orchestre.
Est-ce que vous aussi, vous faites tellement de musique que vous n'avez plus le temps d'en écouter ?
Alors, il y a des moments où c'est le cas, en effet. Il y a d'autres moments où j'ai besoin de me nourrir quand même, à un moment donné.
Ouais. Et alors, quand vous écoutez de la musique, vous écoutez quoi ?
Pour cet album, par exemple ? Quand vous avez travaillé cet album, vous écoutez quoi ?
J'écoute énormément de choses. J'écoute pas mal de musique classique, de musique minimaliste américaine, du baroque aussi, beaucoup de musique romantique. Un peu de musique ancienne aussi, et puis de la musique électronique énormément, de la musique orientale pas mal, maintenant un peu plus africaine même. Ça va, j'ai tout ce qui est de bonne facture, avec une âme.
Et c'est pour ça qu'on retrouve ça par exemple dans ce morceau. Là, c'est vers la fin, en fait, du morceau Crave.
Tout à fait, c'est une outro. J'adore ça. Elle est inattendue et elle arrive. Parce que pourquoi pas ?
Ben ouais. À quel moment ? Parce que c'est vous qu'on entend, là.
Ouais, tout à fait. Les gens en live, souvent, ils sont surpris quand ils découvrent que c'est moi qui chante. Et il y a un micro, j'espère que monsieur... Les oreilles de monsieur ne saignent pas trop.
Votre musique, elle s'affranchit vraiment des genres hein, sur ce disque. C'est pas de l'électronica, c'est pas de la pop, c'est pas de la chanson. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y avait quand même un fil conducteur au démarrage quand vous avez commencé à écrire ?
Je pense qu'il y a un fil conducteur qui est harmonique.
Oui.
C'est beaucoup d'accords mineurs, quelques gammes que j'utilise beaucoup, quelques motifs mélodiques aussi à la voix. On a chacun nos petits automatismes, nos petits. Et je pense que oui, le fil rouge, il est dans l'harmonie et donc dans l'émotion, et donc que je fasse un morceau qui soit produit de manière qui soit uniquement instrumentale ou qui soit plutôt une chanson. Je pense que c'est pour ça que ça continue de faire sens, parce que je ne cesse un peu de peut-être dire la même chose finalement à travers des supports différents. Mais
c'est quoi vos automatismes ? Vous parlez d'automatisme dans la voix, des petits trucs qui... Vous, c'est quoi ?
C'est un portamento par exemple, où au lieu de passer d'une note à l'autre, je vais faire le parcours, je vais parcourir, vous voyez, des choses comme ça. Moi, je fais souvent ça, des secondes mineures, voilà, des petits automatismes qui sortent naturellement.
Je disais tout à l'heure là, que ce disque, vous avez occupé pendant 4 ans. Alors, il y avait, paraît-il, 22 versions d'African Melancholia qui ont été titres du disque. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? Est-ce que c'était l'écriture, l'enregistrement ?
Alors, pour être honnête, on me pose énormément cette question. Je crois que ça trouble les gens qu'aujourd'hui on mette 4 ans pour faire un album. Ce que je comprends.
Oui, on est dans un marché très rapide.
Absolument, absolument. Mais en vrai, si vous voulez, il y a l'écriture d'une part, de la musique, il y a l'arrangement, il y a le fait que je travaille avec un ordinateur, donc il y a ce qu'on appelle le workflow. C'est vraiment mon enjeu sur le prochain album, c'est travailler une configuration qui fait qu'il y ait le moins de temps possible entre mon idée et sa réalisation. Mais avec toutes les conneries d'ordinateur et compagnie, ce qui fait qu'on est aujourd'hui autonome et qu'on ne paye pas des studios extrêmement chers, il y a un prix à payer, c'est qu'on est avec des machines. Moi, je viens pas de là. Je suis quelqu'un qui... Mon trip, c'est pas l'ordinateur. Mon trip, c'est la musique. Et donc, tout ça peut être un peu long. Et peut même nous faire dévier parfois de son... de sa voix, son instinct même, parfois. Donc, il y a ça, il y a l'arrangement. Ça a été long de choisir, de pouvoir choisir tant de sons, tant de couleurs. Et surtout, dès que je fais quelque chose, quand je me dis, j'en ai pas l'intime conviction, quand je me dis, c'est pas vraiment moi, ça, et ben, je suis mal à l'aise, que j'ai l'impression que je vais mentir, ou je sais pas, j'ai un truc qui est vraiment chevillé au corps, honnêtement, et je veux que ça me ressemble totalement.
Le titre, c'est Crave, ça veut dire le manque.
Absolument.
Ça correspond à quoi, ce manque ?
Ça correspond à... Il y a une phrase que j'aime énormément de Pascal, je le dis souvent et je vais le répéter parce qu'elle est vraiment très belle, qui dit que l'homme a un creux en forme de Dieu. Je trouve cette phrase sublime. Et Crave, pour moi, c'est ce creux. Et c'est ce creux, vous parliez du mal tout à l'heure, de Caïn et Abel. Et je crois qu'il s'agit de ça, c'est là où se loge le mal, le manque. Et sous toutes ses formes, et ça parle de ça.
Les dates de concert, Marion Guilbeault ?
Elle sera en tournée. Il y aura Magny-le-Hongre, Neuchâtel, Alençon, Niort, Cholet, le Festival Chorus à Boulogne, ce sera le 6 avril, et Tourcoing.
Les concerts. Moi, je peux vous dire aussi, le 13 février prochain, vous allez aussi participer à une soirée intitulée À définir dans un futur proche nos périphéries au Théâtre du Rond-Point à Paris, avec Ariane Ascaride, Barbara Carlotti et Aloïs Sauvage.
Et on y sera.
Merci à vous. Vous restez avec nous pour la toute dernière partie. C'est les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault.
Bonjour à n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers ?
Non, madame, des musiciens.
Marion.
Séance de rattrapage, c'est pas souvent, Laurent, mais celle-là, elle m'avait échappé. Celle-là, elle s'appelle Karen Lee Orzolek, dite Karen O. Elle est américaine, c'est la chanteuse du groupe new-yorkais Ye Ye Ye, un honnête combo rock avec lequel elle s'agite beaucoup, car Karen O, c'est une active. Elle a signé des musiques de films, dont un de Spike Jones, des musiques de jeux vidéo. C'est une jeune femme éclectique, électrique. Elle est régulièrement citée dans les classements macho des magazines musicaux comme une des chanteuses les plus hot. Je sais pas ce que ça veut dire.
Oh, vous voulez que je vous explique ce que ça veut dire?
Il va falloir m'expliquer. Ouais. Ses copains s'appellent David Lynch, Trent Reznor, Peaches, et son nouveau meilleur ami, c'est Danger Mouse, un musicien et producteur que tout le gratin pop s'arrache, Gorillaz, Black Keys, Niarce Barclay. Ensemble, ils ont enregistré un album Lux Prima qui promet, vu les forces en présence. Quelques titres sont déjà disponibles à l'écoute sur les internets. Il y a un long voyage de pop planant de 9 minutes qui s'appelle Lux Prima également, et cette petite sucrète garage 2.0 à écouter très fort.
Et elle tape dans ses mains, Marion Guilbeault.
Ouais, moi je tape dans mes mains. J'adore ce titre de Karen O et Danger Mouse. Woman, ça s'appelle. Leur album Lux Prima sortira normalement le 15 mars chez tous les bons disquaires. Affaire à suivre. Vous aimez ce genre de musique?
Oui, j'aime bien. J'aime pas forcément ce genre de musique, mais là j'aime bien. Parce que c'est ample, la section rythmique est très ample, ça me plaît.
Alors on va continuer en sifflotant avec le crooner suédois J.J. Johansson. C'est un artiste qui s'était fait connaître à la fin des années 90 avec un mélange inédit et réussi de trip-hop, de jazz cool, avec cette voix androgyne vraiment bluffante qui lui permet d'élever sa mélancolie profonde bien au-dessus de la moyenne pop. Alors le dandy scandinave vient enfin de faire sa première apparition au cinéma. C'est dans un film suédois, Swoon. C'est très Baz Luhrmann dans l'esprit. Il joue le rôle d'un chanteur pianiste de jazz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc avec un titre issu de cette bande original que JJ reprend contact avec nous. Et vous allez voir, c'est une très belle chanson, à la fois un peu vintage, voire swing, et en même temps sans âge, avec ce son feutré, sophistiqué, qui donne un charme fou à tout ce qu'il fait.
surrounded by the city noise, machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught, out from a crowded bar. I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
C'est Marion qui siffle.
J'adore ça, siffler.
La siffleuse. Comme,
c'est ça.
Comme Micheline Dax.
Comme Micheline Dax, exactement. J'adore l'album de Micheline Dax où elle siffle. C'est JJ Johansson, Heard Somebody Whistle. Vous sifflez, Léonie?
Mal et faux.
Ah, bah on va s'abstenir alors.
Moi, je sais même pas siffler.
Et
en
vous,
fait.
Laurent, non?
Ah, bah, j'ai même pas sifflé, bon. Ouais. Non, c'est parfait. Ouais.
Mais voilà. En revanche, j'aime beaucoup. Hein.
Oh oui, ouais. Ouais, voilà, c'est extrait de son nouvel album. Ce sera quand même le 12e de JJ. Ça s'appelle King Cross. C'est attendu pour avril. Je pense qu'on en reparlera. Et dedans, il y a un duo, figurez-vous, avec une autre voix blonde platine. C'est celle de Jeanne Hadid.
Vous avez déjà fait des duos, d'ailleurs, Léonie Pernet?
Ah ben, j'ai même cédé ma place de leader à Nawassim, qui m'accompagne sur scène et qui chante une chanson sur l'album qui s'appelle
ouais,
Awati.
Ouais.
Et
mais des vrais duos, c'est-à-dire.
Ah, des vrais duos.
Ah bah oui, des vrais
alors
duos.
Là, je pense que je vais en faire un avec pour la Gaîté Lyrique. Là, j'avais fait Something in the Way version piano voix d'Herbouka avec Marie Milon qu'on a vu tout à l'heure, où on chante en duo et ça matche vraiment très bien. Donc, je pense qu'on va l'enregistrer.
Un duo pour finir, Marion Guilbeault.
Et un duo pour finir. Alors, on finit avec Clara Luciani. Alors, je sais, c'est pas vraiment une nouveauté. Parce que quoi qu'il se passe demain aux Victoires de la Musique, Clara Luciani est une des plus belles révélations musicales de 2018. Avec sa voix grave, veloutée, sa pop élégante, féminine. Une Clara Luciani qu'on a vraiment vue s'épanouir sur scène. Ses chansons ont pris de la chair. Et elle, une assurance qui nous donne très envie d'écouter la suite. Alors, pourquoi je vous parle d'elle dans ses nouveautés nouvelles? Parce que son excellent premier album, Sainte Victoire, est réédité demain avec 4 inédits, dont une reprise. Et on sait combien la longue Angéline chanteuse est douée pour réinterpréter les chansons des autres. On connaît ses versions de Lana Del Rey, de Métronomie. Et là, c'est un duo au sommet, un duel au soleil, comme dirait Dao, sur une chanson de Marc Lavoine qu'elle a masculinisée pour l'occasion avec la complicité de qui ? De Philippe Catherine. Et c'est parfait, comme d'habitude.
Le soleil est là.
le soleil déjà est pour moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil déjà est pour moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras.
Qu'est-ce que t'es beau, Clara Luciani et Philippe Catherine, un extrait de la réédition de Sainte-Victoire, le premier album de Clara Luciani, qui sera en concert près de chez vous avec l'Olympia les 12 avril et 10 septembre à Paris, le Printemps de Bourges le 19 avril. Programmation Qu'est-ce que t'es forte de Marion Guilbeault. Le NRV, voilà, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes, ce sera après le journal. On va se retrouver avec ça. Israël, où est passé le rêve sioniste? Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.